Tout le monde. Alors j'aimerais parler de deux relations, deux types de relations qu'on peut avoir avec Dieu ce matin. Et ça rejoint beaucoup de choses qui ont été dites déjà dans le culte. Donc ça veut dire qu'il faut écouter avec une attention particulière, n'est-ce pas? Quand Dieu répète les choses plusieurs fois, ça veut dire qu'il s'adresse soit à quelqu'un d'entre nous ici, soit il s'adresse à plusieurs d'entre nous. Mais il y a un message spécifique ce matin, on ne s'est pas concerté, il n'y a pas de concertation avant le culte ou pendant la semaine sur ce qui va être dit. Et quand on voit que les choses sont parfaitement dans la continuité ou dans la coïncidence, eh bien c'est inquiétant quelque part. Parce que ça veut dire que ça ne peut pas être dû au hasard, ça ne peut pas être dû à des facteurs facilement explicables, n'est-ce pas ? Et ce que Emmanuel a dit en introduction était parfaitement presque le contenu de ce que j'allais dire. Ce qui veut dire que je me suis même demandé si je devais effectivement parler. Et ensuite, ce qu'Emmanuel a dit aussi dans son exhortation était tout à fait cohérent avec certains autres aspects de ce que j'allais dire. Donc, voilà, qu'on écoute la parole de Dieu, surtout, c'est ça. Et vous savez que Dieu parle encore aujourd'hui, qu'il agit encore aujourd'hui. Il est puissant pour répondre à nos besoins. Et le thème, donc, c'est deux types de relations avec Dieu. Et le premier type de relation avec Dieu, c'est la relation une relation légaliste. C'est-à-dire que, en fait, on va s'attacher à Dieu, on va s'attacher à la parole de Dieu, à ce qui concerne Dieu, mais on va s'attacher d'une manière comme un esclave s'attacherait à son maître. C'est-à-dire, je veux l'esclave dans les bonnes circonstances, le serviteur, parce qu'esclave, effectivement, a pris tellement une tournure négative, mais le serviteur, lorsqu'il veut plaire à son maître, eh bien, il va être prêt à obéir. Il va vouloir faire tout ce que son maître lui demande, mais il restera le serviteur, n'est-ce pas? La relation entre le maître et le serviteur sera toujours une relation de supérieur à inférieur. Et elle devra rester comme ça, parce que sinon il y aura une transgression d'une règle, il y aura non-fonctionnement du système. Si le serviteur s'élève au rang de maître ou si ce serviteur domine le maître. Et ce matin, j'aimerais parler de deux personnes qui incarnent ce type de relation qu'on peut avoir. Le premier, vous avez peut-être deviné, le premier personnage, c'est Agar. Et le deuxième, merci beaucoup, le deuxième, c'est Sarah. Agar, et ça ne vient pas de moi, ça vient d'un autre Paul qui est beaucoup plus connu et plus important, c'est l'apôtre Paul qui dans Galates nous dit dans chapitre 4 que Agar représente l'alliance de la loi, l'ancienne alliance. Qu'est-ce que c'est l'ancienne alliance? C'est l'alliance qui a été donnée dans l'Ancien Testament, qui a été donnée au peuple juif. Elle est représentée par un personnage, Agar. Cette femme qui ne savait pas, qui n'a jamais su qu'elle allait être si célèbre, qui ne savait pas qu'elle était en elle-même une prophétie, qu'elle représentait une vérité spirituelle immense. Et vous savez, cette femme, même si elle n'avait pas un rôle aussi important, n'est-ce pas, que celui de Sarah, elle a un sens, une signification qui est très importante. Et donc, l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 4, nous dit que Agar représente la loi, le mont Sinaï, la Jérusalem qui est sur la terre actuellement, ou à l'époque où il écrivait. Tandis que Sarah représente la Jérusalem céleste, Sarah représente un autre type de relation avec Dieu, qui est cette relation d'amour. Et comme Cette relation était très forte entre Abraham et Sarah, cela est très clair, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre, d'ailleurs, en parle combien Sarah était attachée à son mari. Eh bien, ces couples-là, Sarah et Abraham, représentent très clairement la relation que Dieu veut avoir avec les hommes et les femmes. C'est une relation d'amour, une relation de complicité, une relation d'intimité, une relation où l'un se donne à l'autre. C'est ça le message de l'Évangile, c'est ça la nouvelle alliance. C'est ce que l'apôtre Paul dit sur Sarah, c'est qu'elle représente cette nouvelle alliance. Cette relation où on aime Dieu et on est en communion avec lui. Mais il y avait dans la famille de Abraham et Sarah, il y avait une servante qui s'appelait Agar. Pourquoi Agar était là? Probablement, ce n'était pas bien qu'elle soit là. Parce que, vraisemblablement, ça la Bible ne le dit pas, mais on sait que Abraham et Sarah étaient passés par l'Égypte avant. Et bien sûr, il n'y avait rien de mal à aller en Égypte. Comme maintenant, il n'y a rien de mal d'aller en Égypte. C'est d'ailleurs très beau comme pays. Mais, si vous voulez, d'une certaine façon, nous qui lisons l'Ancien Testament, donc rétrospectivement, eh bien, l'Égypte, ça symbolise quand même le monde, le péché, n'est-ce pas? Et il nous est dit qu'Abraham et Sarah sont allés en Égypte parce qu'il y avait une famine. Vous lisez ça dans Genèse chapitre 12, il y avait une famine. Et ma question, c'est est-ce qu'ils auraient dû quitter Canaan pour aller en Égypte à cause de la famine? Mais ce que je me demande et qui est beaucoup plus important, c'est qu'est-ce que nous faisons quand nous ressentons la famine spirituellement? Il y a nécessairement dans nos vies des moments où nous ressentons que nous avons une faim spirituelle, qu'il y a quelque chose en nous qui manque, quelque chose qui n'est pas nourri, n'est-ce pas? C'est ça la famine. Ça veut dire qu'on a faim et on n'arrive pas à trouver la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher en Égypte? Ou est-ce qu'on va chercher en Dieu, que Dieu intervienne et que Dieu pourvoie? Et je ne dis pas du tout que Abraham et Sarah ont eu tort d'aller en Égypte, parce qu'ils avaient le droit de faire ça. Je pense que Dieu le permettait. Mais nous avons tort, n'est-ce pas, d'aller chercher dans le monde de quoi satisfaire notre faim, de quoi satisfaire notre soif. Et c'est souvent ce que nous faisons. Souvent, nous essayons de trouver des réconforts dans le monde. Nous essayons de trouver la solution à ce à quoi nous aspirons. Nous allons souvent dans le monde, nous éloignons de là où Dieu voulait qu'on soit, de la terre qu'il avait choisie pour nous, de l'endroit qu'il avait choisi pour nous. Et ma question ce matin, c'est: qu'est-ce que vous faites quand vous sentez que vous avez cette faim à l'intérieur de quelque chose de plus? Peut-être ce matin, vous avez faim d'affection, d'amour. Où allez-vous chercher cela? Peut-être vous avez besoin d'être pardonné, n'est-ce pas? Peut-être vous avez besoin d'être soulagé de quelque chose. Mais où allez-vous chercher ce dont vous avez besoin? C'est vraisemblablement, en tout cas en Égypte, qu'ils ont rencontré Agar et qu'ils ont dit, eh bien, on va prendre Agar comme notre servante. Et voilà qu'elle est rentrée dans cette maison, dans ce couple qui s'aimait beaucoup, et elle était une troisième personne dans la maison. Il y en avait d'autres parce qu'ils avaient des serviteurs, dont un s'appelait Eliezer, n'est-ce pas? Et Abraham était comme un prince, n'est-ce pas? Il était riche. Et donc certainement, bien sûr, on le sait, il avait des serviteurs et des servantes. Mais celle-là semblait avoir une place particulière parce qu'elle était servante de Sarah. Et Sarah, donc un jour, donc Abraham a reçu une promesse de Dieu. Dieu lui a dit, je te donnerai une postérité. Et c'est une promesse que Dieu nous fait à chacun d'entre nous. Il nous dit, voilà, je peux créer dans ta vie quelque chose d'extraordinaire. Je peux faire en sorte que Sarah, qui est stérile, qui a toujours été stérile et qui est maintenant âgée, puis je peux faire en sorte qu'elle porte en elle-même un enfant. Abraham ne croyait pas à cela. Abraham ne croyait pas que Dieu pouvait faire ça et que Dieu allait faire ça. Il a pensé que ce n'était pas possible sur le plan humain, ça n'était pas possible qu'une femme âgée, qu'une femme qui avait été stérile toute sa vie et qui, en plus, était âgée, puisse avoir des enfants. Ce n'était pas possible. Et ma question ce matin, c'est comment vous répondez à Dieu lorsque Dieu vous dit « Je veux te donner le Saint-Esprit ». Parce qu'on va voir qu'Isaac, qui est né, il représente Jésus-Christ, il représente le Saint-Esprit. Et quelle est notre réponse? Eh bien, dans les églises, on entend souvent des gens qui disent « c'est pas possible ». C'est pas possible. Si on veut avoir une vie propre, une vie saine, une vie sainte, eh bien, il faut faire des efforts, il faut lutter, il faut abandonner plein de choses, il faut faire des efforts pour l'avoir. Mais Dieu ne va pas nous donner comme ça le pardon. Dieu ne va pas nous donner la délivrance. Dieu ne va pas nous donner une vie de victoire. Il ne va pas nous donner le Saint-Esprit. On dit, ce n'est pas possible. Et très souvent dans notre relation avec Dieu, on dit à Dieu avant qu'il parle, de toute façon, ce n'est pas possible si tu me dis que je peux vivre dans la sainteté. Ce n'est pas possible que je vive la vie chrétienne telle qu'elle est enseignée dans le sermon sur la montagne. C'est pas possible pour moi d'aimer mes ennemis. C'est pas possible de pouvoir donner sa vie pour ceux qui nous haïssent. On dit c'est pas possible de pardonner ce qui nous a été fait, les offenses qui nous ont été faites. Et combien de gens disent, même dans les églises, si vous saviez ce que j'ai traversé, vous seriez d'accord avec moi que ce n'est pas possible de pardonner. Et on commence notre relation avec Dieu avec un « c'est pas possible ». C'est pas possible. Tu me dis que c'est possible. Tu me dis que le Saint-Esprit peut faire cette œuvre dans ma vie. Mais moi, je dis « c'est impossible ». Et au fond, dans le cœur d'Abraham, il y avait cette réponse, dans le cœur de Sarah aussi. « C'est pas possible, Seigneur, sois raisonnable. C'est pas possible. » Alors, la relation avec Dieu n'est pas celle, à ce moment-là, que Dieu voulait. Dieu voulait qu'on lui dise « Oh Seigneur, c'est merveilleux. Alors fais ton œuvre. » Mais Abraham a eu recours, comme tous les êtres humains, une fois qu'on rejette la promesse de Dieu, une fois qu'on dit à Dieu « c'est pas possible », eh bien on a recours à la raison. Et vous savez combien les Français aiment la raison depuis la Révolution. Quelle place sur l'autel, n'est-ce pas, a eu la raison. On a incarné, on a pris une femme et elle incarnait la raison qui a été placé sur l'autel à Paris pour dire « voilà le Dieu des Français, la raison ». Et Abraham n'était pas français, bien sûr, vous avez compris ça, mais Abraham a eu recours à la raison. Il a dit, en quelque sorte, il n'a pas dit ça verbalement à Dieu, mais il a dit à Dieu, c'est comme s'il avait dit à Dieu « sois raisonnable, je ne peux pas avoir d'enfant ». Alors il a dit, ça sera Eliezer, mon serviteur, le plus ancien dans ma maison, cet homme fidèle, c'est lui qui va hériter mes biens. C'est lui qui va assurer ma renommée dans les générations futures. Il parlera de moi et mon nom se perpétuera grâce à lui. Mais Dieu avait quelque chose de plus. Alors quand Abraham a compris ça, il a écouté donc la voix de sa femme qui lui a dit, eh bien, et à l'époque c'était possible de faire ça quand les femmes étaient stériles, elles donnaient leur servante à leur mari pour que la servante donne naissance en présence de la maîtresse, de la femme de l'épouse, et l'enfant était considéré au fond comme celui de l'épouse. Donc, Sarah a dit, va vers Agar, et avec elle, tu auras un enfant pour moi. Et ce n'était pas du tout le plan de Dieu, mais j'admire le respect de Dieu, la patience de Dieu, extraordinaire. Parce qu'on pourrait penser que Dieu se serait fâché contre Abraham. Il aurait dit, bien parce que tu n'as pas cru, alors voilà le jugement. Mais tout ça était dans la volonté de Dieu, c'était dans le plan de Dieu, c'était, il y a une valeur symbolique, c'est quelque chose qui s'est passé réellement, mais il y avait une valeur symbolique extraordinaire. C'est que le cœur de Dieu, c'est que nous soyons unis à Dieu et que nous ayons confiance dans ses promesses, parce qu'il les accomplira. Mais il sait que le peuple d'Israël devait passer par la loi. Et la relation que Abraham avait avec Agar était une relation de raison. C'est la loi, c'est les commandements, c'est les choses qui sont de l'ordre de la servitude, de l'esclavage. Est-ce que c'est ça la relation que nous avons avec Dieu? Est-ce que nous disons, oui, je crois que Dieu a des promesses pour moi, mais c'est moi qui dois trouver comment y accéder? Parce que c'est ça qu'Abraham a dit. Il a dit, oui, je crois que tu vas me donner un fils, mais comme ce n'est pas possible que ce soit par Sarah, alors je vais me débrouiller, je vais faire des efforts. Et peut-être vous avez fait des efforts depuis des années. Peut-être ça fait des efforts, des années que vous faites des efforts pour avoir la victoire sur quelque chose. Peut-être vous sentez que vous êtes dans l'impossibilité de louer le Seigneur. Peut-être vous êtes dans l'impossibilité de pouvoir dire « Je sais que Dieu m'a sauvé, que Jésus m'a sauvé. Je sais que je suis libre, je sais que je suis pardonné. Je sais où je vais lorsque je vais mourir. » Peut-être vous ne pouvez pas le dire. Je me rappelle que moi, je ne pouvais pas le dire du tout. Alors on me disait « Mais alors, tu veux donner ta vie au Seigneur ?» Je disais « Oui. » Alors voilà, il faut croire, c'est bon, il faut croire. Alors dis que tu es chrétien. Alors je disais, je suis chrétien, voilà, je suis content, super. À l'intérieur, il n'y avait rien. Il y avait quelque chose qui témoignait que je ne l'étais pas. Et quelquefois, on pense qu'on doit donc faire des efforts. On doit confesser par la foi qu'on est libéré. On doit dire, j'ai reçu le Saint-Esprit parce que je me suis donné un jour au Seigneur où j'ai répondu à un appel, alors j'ai reçu le Saint-Esprit, je dois le déclarer par la foi. Non. Soit c'est quelque chose qui est vécu d'une manière réelle et radicale, qui fait que ça s'exprime tout naturellement de nous-mêmes. Soit nous allons essayer de forcer cela et de dire des phrases, de dire des déclarations, de faire des œuvres. Combien le christianisme a été gâché en France, en Europe et dans le monde. Combien nous avons notre responsabilité, n'est-ce pas, pour bien des événements qui se produisent, la dégradation morale de notre société, même l'extrémisme qui se produit de plus en plus, et en grande partie due à l'image qu'a donnée le christianisme. Où on a dit, c'est par les œuvres que vous êtes sauvés. Il faut faire ceci et cela, il faut plaire à Dieu, il faut chercher à faire cela. Et c'est là que vous allez avoir la promesse de Dieu qui est la vie éternelle. C'est là où vous allez découvrir Dieu, c'est là où vous allez connaître Jésus-Christ. Si vous lui faites plaisir, si vous faites des œuvres. Voilà ce qu'Abraham faisait. Je vais faire des œuvres pour réaliser ta promesse, Seigneur. Je vais faire les choses pour que ta promesse s'accomplisse. Et donc, il s'est uni à Sarah, à Agar. Et elle attendait un enfant. Vous savez qu'il s'appellera Ismaël. Et ce n'était pas la promesse de Dieu. Dieu n'avait pas promis Ismaël. Il a permis qu'Ismaël naisse et il a béni Ismaël. Il a béni Agar. C'est écrit qu'il a béni Agar. Parce qu'elle avait cette... Elle était en communion avec Abraham, qui représente Dieu. Et même si c'était par des efforts, même si c'était pour essayer de répondre à une promesse de Dieu par ses propres efforts, il y a eu une bénédiction qui en est sortie. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et vous allez voir comment Dieu considère cette chose et ce qu'il faut faire. Mais voilà que, et voilà ce qui arrive, c'est que lorsque vous faites des efforts, vous dites, voilà, je vais essayer de vivre une vie chrétienne. Vous venez dans une église et vous dites, voilà, moi j'aimerais bien connaître ceci et cela, donc je vais essayer. Eh bien, ça marche au début. Il y a des choses qui vous donnent l'occasion même de vous vanter vis-à-vis des autres, de dire, moi, voilà, j'ai eu cette expérience avec Dieu. Et je me rappelle, moi, quand j'étais jeune chrétien, j'ai côtoyé des jeunes, d'autres jeunes, et ils en mettaient plein la vue, quoi. « Oh, le Seigneur a fait ça pour moi, et moi, j'avais un petit témoignage qui semblait nul à côté d'eux, et eux, c'était du spectaculaire. » Alors, j'avais un peu honte. Quelquefois, on demandait de rendre témoignage dans les réunions. Et évidemment, j'avais honte de mon témoignage, parce que c'était, j'étais pas très méchant. Mais Dieu a fait quelque chose dans ma vie quand même. J'avais besoin de Dieu. Et il y en avait d'autres qui avaient été radicalement transformés, etc. Mais voilà, on peut aussi montrer des choses. Et c'est ce qu'Agar a fait vis-à-vis de Sarah. Elle a montré qu'elle, elle portait du fruit. Et jusqu'à un certain point, on peut, par les œuvres, porter du fruit. Et on va porter du fruit. Il y a une certaine bénédiction qui ressort de ceux qui vivent une vie pure, une vie intègre, une vie selon les commandements de Dieu, sans avoir l'Esprit de Dieu. Il y a une bénédiction parce que la loi vient de Dieu, parce que les choses morales viennent de Dieu. Regardez les États qui fonctionnaient selon un modèle, une constitution qui était inspirée de la loi de Dieu. Ce sont des États qui ont prospéré. Ce sont des États qui ont tenu solidement, qui se sont édifiés, qui sont devenus des puissances mondiales. Et maintenant, on essaie d'enlever toutes ces choses-là. On essaye d'abattre un mur porteur. Je ne suis pas du tout dans la technique des maisons, etc. Mais je sais qu'il ne faut jamais abattre un mur porteur. Et je sais qu'avant d'abattre un mur, il faut demander, dans mon cas, à plein de personnes si c'était un mur porteur ou pas. On est en train d'enlever les murs porteurs de la société. Et la loi de la gravitation va s'appliquer. C'est la chute des sociétés, des États qui font ça. Donc voilà, ici, on a cette femme Agar qui va commencer à montrer qu'elle, elle porte du fruit. Et quelquefois, dans notre vie chrétienne, on peut être « Seigneur, je crois à ta promesse, bien que Sarah ne croyait pas encore réellement que Dieu allait faire ce miracle. » Mais on peut dire « Voilà, Seigneur, moi je ne porte pas de fruits, j'ai l'impression de ne pas porter de fruits, et pourtant je sais qu'il y a une promesse. » Et pour Sarah, c'était terrible, parce qu'elle avait l'impression que Dieu avait choisi Agar pour accomplir la promesse et qu'elle, elle était disqualifiée. Peut-être ce matin, vous pensez que vous êtes disqualifiée. Je me rappelle aussi des époques de ma vie où j'ai vu que des gens semblaient connaître une bénédiction spirituelle et j'ai pensé, moi, je ne suis pas. Je ne suis pas sélectionné. Je suis à côté. Je ne vais jamais connaître la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Je ne vais jamais connaître l'œuvre de Dieu complète dans ma vie. Ça, c'est pour d'autres. Une époque de ma vie, je croyais que ça c'était pour ma sœur, mais pas pour moi. Je croyais que c'était pour les gens, certaines personnes, et pas pour moi. Mais si vous attendez et si vous croyez, vous verrez que Dieu agit dans votre vie, qu'il répond, il accomplit sa promesse pour vous aussi. Et un jour, vous allez pouvoir témoigner que Dieu a accompli ses promesses. Il a dit que celui qui demande le Saint-Esprit, Dieu lui donnera. Si vous demandez le Saint-Esprit, si vous rentrez chez vous et vous dites, Seigneur, j'aimerais comprendre ces choses de Dieu, j'aimerais recevoir dans ma vie une vie nouvelle, la certitude que tu m'as, que tu habites en moi, que tu agis dans ma vie, que mes problèmes que j'ai, je ne vais plus essayer de les résoudre par moi-même. Je ne vais plus essayer de faire des œuvres pour que ça change. Je veux juste que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre, puisque c'est ça que nous dit l'Évangile. Eh bien, si vous le priez sincèrement, Dieu répondra. Ah, bien sûr, vous allez attendre qu'il réponde immédiatement, parce qu'on est dans la génération SMS. On envoie un SMS à Dieu, on attend qu'il nous réponde tout de suite. Il y a des gens qui se fâchent parce qu'on ne répond pas aux emails tout de suite. Ils disent « Ah, il est fâché après moi. » Il ne répond pas. Vous allez devoir peut-être attendre. Sarah a dû attendre. Elle a dû attendre probablement aussi parce qu'elle a douté. Mais elle a dû attendre. Et donc, Agar qui a montré qu'elle portait du fruit, eh bien, ça a irrité Sarah. Et Sarah a commencé à la maltraiter. Voilà, de cette famille qui fonctionnait bien, il a commencé à avoir des tensions, des choses qui n'allaient pas, etc. Et donc, Agar était au top, puisqu'elle portait du fruit, parce qu'elle, elle avait réussi, elle avait démontré que c'était par les œuvres qu'on arrivait à quelque chose. Et que Sarah, la vieille, elle n'avait rien. Elle pouvait encore attendre. Eh bien, puisque sa maîtresse s'irritait, la maltraitait, eh bien, elle a décidé, moi, je prends la porte et je m'en vais. La servante était devenue maîtresse et la maîtresse était devenue servante. Parce que Sarah était humiliée quotidiennement devant son esclave et l'esclave était glorifié, exalté devant la maîtresse. Donc, Agar est partie. Elle a quitté la maison et elle est allée dans le désert. Et elle avait trouvé la solution, n'est-ce pas? Agar était très, très habile. Elle est allée près d'une source d'eau. Ça, je vais survivre. Je peux me débrouiller. Je n'ai pas besoin d'Abraham. Je n'ai pas besoin de Sarah. Je me débrouillerai toute seule. Je vais survivre dans le désert. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que si vous fonctionnez par les œuvres, si vous voulez atteindre Dieu par les œuvres, si vous avez cette idée que vous allez pouvoir l'atteindre et recevoir ce qui est promis par vos propres efforts, vous allez finir dans le désert. Et c'est là où elle était, dans le désert. Vous savez qu'au prophète Osée, Dieu a dit « Je l'amènerai au désert parlant de son peuple, et là je parlerai à son cœur. » C'est exactement ce qui s'est passé à Agar. Dieu a parlé à son cœur. Dieu est venu lui parler à Agar et lui a dit « D'où viens-tu et où vas-tu ?» Voilà une question que Dieu vous pose ce matin. D'où est-ce que tu viens? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Où est-ce que, de où tu viens? Spirituellement, de où tu viens? Et où vas-tu? Agar pouvait répondre de où je viens. Je viens de chez ma maîtresse qui est méchante. Je paraphrase. Elle n'a pas répondu où vas-tu? Parce qu'elle savait qu'au fond, elle était perdue. Elle savait qu'il n'y avait pas d'espoir. Elle était dans le désert. Elle était près d'une source. Mais bientôt, elle aurait faim. Bientôt, elle aurait été comme le fils prodigue, en train de dire dans la maison de mon maître, il y a des biens en abondance. Et donc, Dieu lui a dit, humilie-toi, et retourne chez ta maîtresse. Et peut-être ce matin, ceux qui sont dans l'idée qu'ils peuvent par les œuvres, et chez nous, il y a toujours une partie de ça, eh bien, on a tendance à partir très vite, à claquer la porte à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. Combien de gens sont offusqués lorsqu'on leur dit que le message de l'Évangile, c'est un message de vie, de sainteté, que c'est le serment sur la montagne qui doit être vécu, c'est-à-dire l'amour des ennemis, qu'il ne doit pas y avoir de ressentiment contre quelqu'un. Les gens sont offusqués, et ça dans les églises évangéliques. Des gens sont venus me voir après certaines réunions quand j'ai parlé autre part et visiblement n'étaient pas contents de ça. On doit comprendre que dans certaines situations, c'est impossible. Pourtant, l'Évangile est clair. Quelquefois, une fois, on m'a dit dans une église que c'est bien beau de prêcher que Dieu libère du passé. Mais le passé, il est toujours là quand même. Et cette personne qui a fait une déclaration est un ancien d'église. Mais il est en train de déclarer le contraire de l'Évangile. Parce que si le passé est toujours là, alors il est en train de donner un verset, une parole qui est contraire à ce que dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas ? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la nouvelle naissance, qui est le message de l'Évangile, il y a une libération des liens du passé. Et c'est ça, et peut-être vous ne le vivez pas entièrement aujourd'hui, certes. Peut-être que vous êtes encore dans l'attente de la promesse, mais ne soyez pas dans la tentative de résoudre ce dilemme chez vous par la raison, en disant « voilà donc, le passé est toujours là, ce que Dieu a dit, c'est faux ». Croyez que Dieu va vous libérer si vous cherchez. Croyez que l'emprise de votre vie passée, et il y a des gens qui ont des emprises très fortes parce qu'ils avaient des parents très forts, parce que les parents ont inculqué quelque chose de très fort dans leur vie, cette emprise du passé est là très très fortement, n'est-ce pas ? Parce qu'ils ont vécu des traumatismes très violents. Alors l'emprise du passé, là, toujours dans leur vie, c'est normal. C'est normal que ça soit fort. Mais le message de l'Évangile, c'est qu'un jour, vous pouvez être délivré de ça complètement. Comment cette femme, cette jeune femme, est-elle allée dans la tribu où son mari était allé pour porter l'Évangile et il avait été tué. Elle-même est allée en personne après pour porter l'Évangile à ceux qui avaient tué son mari. Elle savait qu'elle allait certainement rejoindre son mari. Mais ça a touché le cœur de ceux qui ont vu cela. Comment la femme de celui qu'on a tué peut-elle venir pour dire que Dieu les aime et qu'elle les aimait, qu'elle avait pardonné ? Parce que Dieu avait donné quelque chose de nouveau. Il avait fait naître dans cette femme la promesse de Dieu, la promesse du Saint-Esprit qui nous libère d'un autre fonctionnement. Donc Agar a dû rentrer, elle a dû s'humilier. Et vous avez besoin, et j'ai besoin de m'humilier. Vous savez qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit qui plaise à Dieu à moins d'avoir cette humiliation et cette humilité dans le cœur. Elle est rentrée à la maison, elle a donné naissance à Ismaël. Il y a eu des promesses de Dieu pour Ismaël. Même Dieu a dit quelque chose d'étrange, de merveilleux, qui s'est réalisé. C'est que Ismaël sera le père de 12 princes. D'accord ? Pas seulement Israël, le petit-fils d'Abraham, serait le père de 12 princes, mais Ismaël aussi. Mais ceux sont moins connus. Mais il était le père de 12 princes aussi. Il y a eu une bénédiction, mais la vraie bénédiction, c'était en Isaac. Et donc, le miracle s'est produit quand Ismaël avait à peu près 13 ans. Sarah a attendu un enfant. Et c'était là la promesse. Alors là, Sarah, elle était comblée. Oui, elle était comblée parce que la promesse de Dieu s'était réalisée en elle. C'était pour elle aussi. Et ce que Dieu avait promis, il l'a fait. Et voilà ce que Dieu veut faire dans votre vie aujourd'hui. C'est l'accomplissement de sa promesse. Croyez en Dieu. Croyez que vous pouvez crier à Dieu. Et il répondra. Et donc, elle a donné naissance, je vais vite parce que le temps passe, elle a donné naissance à Isaac. Et voilà ce garçon qui grandit. Oh, il devait être gâté, ce garçon. Vous savez déjà les parents qui sont âgés quand ils ont un enfant, un unique. Alors là, c'est gâté comme tout, mais alors lui en plus, et en plus, un fils de prince. Donc il était un enfant heureux, certainement. Et il y avait le grand frère Ismaël qui était là. Et un jour, Ismaël a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire. En présence de Sarah, il s'est moqué de Isaac. Ah, je devine un petit peu de quoi il se moquait. Rappelle-moi, elle a quel âge ta mère? La mienne, elle est jeune. Je ne sais pas, ça ne s'est pas dit dans la Bible. Mais voilà, elle s'est moquée, il s'est moqué. Sarah a dit, ça j'en peux plus, ils doivent partir. Alors Abraham était triste, parce qu'il était triste pour Ismaël. Je ne peux pas les laisser partir. Mais Dieu a dit à Abraham, fais ce que Sarah a dit. Ce que Dieu n'était pas en train de dire, c'est voilà, puisque Sarah le veut, alors fais-le. C'était, ça fait partie de mon plan, alors fais-le. Donc, il a donné du pain et de l'eau. Et là, il est frappant, parce que l'alliance qu'il y avait entre Abraham et Agar et Ismaël, c'était du pain et de l'eau. Et c'est ce que Dieu donne, c'est ce que Jésus donne. Il a dit, je suis le pain de vie et je suis l'eau vive aussi. Celui qui boira de moi n'aura plus jamais soif. Mais il y a une autre alliance qui est celle du pain et du vin, qui est l'alliance nouvelle de celle de Jésus-Christ. Une alliance qu'Abraham connaissait sans le savoir, puisque dans le chapitre 14 de la Genèse, alors là je vous parle des chapitres 16 et 21, dans le chapitre 14, il y a un certain Melchizédek qui est venu vers lui avec du pain et du vin. Et ce Melchizédek était un sacrificateur d'un ordre que lui seul avait et Jésus-Christ avait. Jésus-Christ était sacrificateur selon l'ordre de Melchizédek. C'est la nouvelle alliance. Mais pour Agar, c'était le pain et l'eau. Et bien sûr, Abraham devait savoir en leur renvoyant qu'il n'irait pas loin. Et elle est allée dans le désert. Elle est allée dans le désert. Elle était perdue. Et ce matin, peut-être c'est là où quelqu'un se trouve, complètement perdu. J'ai cru que je porterais du fruit qui serait l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et je me retrouve dans le désert maintenant. À un moment donné, j'étais bien, j'étais dans la gloire, j'étais dominant. Et maintenant, je suis au fond, je suis en train de mourir dans le désert, parce que là, elle n'avait pas de source d'eau. Et elle a crié à Dieu. Et Dieu lui a dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Et il lui a donné de l'eau, de la vie, il lui a montré une source d'eau où elle a pu se désaltérer et vivre. Et c'est ce que Dieu va faire pour vous ce matin. Même si vous avez cette relation avec Dieu qui est une relation légaliste, une relation, il va vous amener à découvrir la source d'eau vive. Comme la Samaritaine est venue au puits de Sichar pour accomplir ses tâches ménagères obligatoires, eh bien, Jésus-Christ s'est révélé à elle là, sur le champ. Elle a reçu la promesse de Dieu de cette eau vive qui pouvait remplir sa vie. Elle l'a entendue d'abord, elle a pensé c'est pas possible, elle a commencé à parler religion, etc., mon père Jacob, etc. Mais ensuite, elle l'a tellement vécu qu'elle a sauté de joie, elle a couru vers les gens et les gens ont dit, Ils ont vu qu'elle a changé, n'est-ce pas? C'est ça l'œuvre de Dieu, c'est ça la nouvelle alliance. C'est une vie nouvelle, c'est le corps et le sang de Christ qui nous sont donnés. Et en fait, c'est ça qui a été donné à Sarah, c'est de porter en elle Isaac. Et vous savez qu'Isaac représentait Christ. Et c'est ce qu'il met dans nos vies, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est qu'il met en nous Jésus d'une manière qui est une folie pour le monde. Les gens vont se moquer. Vous savez ce que ça veut dire, Isaac? Ça veut dire rire. C'est pas étonnant que Ismaël se soit moqué de Isaac. Il s'appelait rire. Eh bien, Dieu va mettre Jésus-Christ dans nos vies, et c'est ça l'accomplissement, le Saint-Esprit dans nos vies, qui nous permet de pouvoir vivre selon la promesse de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est donné à ceux qui le demandent. Et si vous n'avez pas demandé le Saint-Esprit, alors demandez-le chez vous aujourd'hui. Dites, Seigneur, je veux recevoir le Saint-Esprit. Je veux être libéré de tout ce qui m'empêche de connaître la plénitude de ce que Dieu a pour moi. Je veux connaître le Saint-Esprit. Je veux que tu naisses en moi, que tu grandisses en moi et que je puisse porter du fruit pour ta gloire. Et c'est ça l'œuvre de la Nouvelle Alliance. C'est ça le plan de Dieu pour nos vies, pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on va croire ce matin? Est-ce que l'on croit ce matin que ce que Dieu a promis va l'accomplir? Ou est-ce qu'on croit encore qu'il faut qu'on fasse des choses pour mériter ce que Dieu a promis? Que Dieu nous conduise, n'est-ce pas, pour qu'on accepte. Mais faites-le chez vous quand vous rentrez, de dire « Seigneur, je veux ». Mettez Dieu à l'épreuve, n'est-ce pas? Et vous verrez que pour vous, comme il dit dans Malachie, « J'ouvrirai les écluses des cieux, je répondrai ». Amen.